Radio Okapi. Le journal, présenté par Lievin Mbuinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. C'est confirmé, bientôt un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 AFC sous la médiation du président angolais. La nouvelle est tombée hier mardi dans la soirée. Une annonce faite par la présidence angolaise à l'issue de la visite effectuée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à son homologue angolais João Lourenço à Luanda. Nous parlerons aussi de cette situation épouvantable à l'hôpital de Kinkanda à Matadi. Pas d'eau potable dans cette formation médicale, la plus grande du Congo central d'ailleurs, et cela dure depuis plusieurs mois. Aucune raison avancée jusque-là. En attendant, le manque d'hygiène et autres mauvais fonctionnements de cet hôpital se portent bien. Et que devient le centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, ex-Mamayemo, à ce jour? Nous allons poser cette question au directeur général de ce centre. Al Kitenge va nous brosser la nouvelle configuration de cet hôpital. Vous avez certainement compris, il est notre invité. Comme annoncé, l'information est tombée hier mardi dans la soirée. La présidence angolaise annonce des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23. La nouvelle est contenue dans un communiqué de presse publié par la présidence angolaise à l'issue de la brève visite qu'a effectuée hier mardi le président Félix Tshisekedi à Luanda. Selon ce communiqué, je le cite, à la suite de la brève visite de travail de son Excellence Félix Tshisekedi à Luanda, la partie angolaise, en tant que médiateur dans le conflit qui touche l'est de la République démocratique du Congo, va établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays. Frère, fin de citation. Nous venons d'avoir la réaction des autorités congolaises sur cette annonce qui est relayée par plusieurs médias. Donc, du côté de la RDC, la porte-parole du président de la République, Tina Salama, indique sur son compte X, je cite, « Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. » Fin de citation. En rapport toujours avec ce conflit qui gangrène l'est de la RDC et plus de deux semaines après justement l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le M23 de se retirer de Goma, de Bukavu et de toute la zone qu'il occupe, aucune action n'est jusque-là menée. Dans ce sens, le M23 continue à occuper ses positions actuelles et tente d'avancer vers Uvira, toujours avec le soutien du Rwanda. Attend-il les signaux de bonne volonté de la part du gouvernement congolais dans cette deuxième livraison de notre série de reportages sur la résolution 2773. Nous revenons sur les recommandations du Conseil de sécurité au gouvernement de Kinshasa et c'est signé Michel Kifindangoy.
La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas seulement condamné le Rwanda et le M23. Elle condamne aussi l'appui apporté par les forces militaires de la RDC à certains groupes armés, en particulier les FDLR. Le Conseil de sécurité demande au gouvernement congolais d'arrêter de soutenir les FDLR et de s'engager à les neutraliser en toute urgence. En outre, il exprime sa volonté d'envisager de nouvelles sanctions contre les personnes qui contribuent à la poursuite des conflits dans l'est de la RDC. Le Conseil demande à toutes les parties d'ouvrir d'urgence des couloirs humanitaires temporaires dans le nord et le sud Kivu pour permettre le réapprovisionnement en articles essentiels et la circulation sans entrave et en toute sécurité des civils, notamment des travailleurs humanitaires. Tous les pays membres du Conseil de sécurité ayant voté à l'unanimité cette résolution ont appelé à des négociations internes à travers la fusion des processus de Luanda et de Nairobi pour éviter une nouvelle effusion de sang dans la région. Pour eux, refuser de négocier équivaut au refus à la paix car il n'y aura pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la RDC.
Et cette question à présent, quelles sont les conséquences de la guerre du M23 sous le pouvoir coutumier au Nord Kivu? Ce pouvoir, il faut le dire, a été sérieusement touché par la guerre d'agression du M23 AFC qui affecte presque tous les territoires depuis les trois dernières années. Plusieurs chefs coutumiers ou leaders traditionnels ont été soit tués, soit obligés d'abandonner leur entité pour se réfugier ailleurs. D'autres ont été démis de leurs fonctions et remplacés au sein de l'administration parallèle mise en place par des rebelles dans toutes les entités occupée. Face à cette triste réalité, plusieurs acteurs locaux estiment que le pouvoir coutumier en tant que tel est menacé et risque de connaître des perturbations et engendrer éventuellement des conflits, préviennent-ils. Gloria Lutula.
Au moins une dizaine de chefs coutumiers et notables ont été tués dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Walikale, dont la plupart entre 2024 et 2025, renseignent nos sources locales. C'est par exemple dans le Rutshuru où trois chefs de groupement ont été tués, à savoir de Djumba, Busanza et Buito. En territoire de Nyiragongo, un chef de village a été récemment tué ainsi que ses trois enfants adultes. Dans le Masisi, un chef de village de Sake, groupement Kamuronza, a été tué ainsi qu'un notable de Mueso en chefferie de Bachali. Toujours à Masisi, un autre chef de village a été tué à Burungu, groupement Bachali Mokoto. En territoire de Walikale, nos sources parlent d'un notable tué cette année à Bitongi, groupement Kisimba. Par ailleurs, les chefs coutumiers qui n'ont pas pu s'échapper sont automatiquement remplacés et amenés à participer à des formations pour des cadres politiques afin d'être ensuite affectés à d'autres fonctions, déplorent les acteurs locaux. À cela s'ajoutent les entités contrôlées par les Wazalendo, notamment dans le Masisi, secteur de Osobunyungu, Katoy et Bachali. Ici, les chefs coutumiers sont chassés par les groupements armés locaux qui récupèrent ensuite leurs biens et leurs champs. Cette situation inquiète grandement la population qui voit là des risques de conflits communautaires car les rebelles installent les chefs coutumiers de leur obédience pour remplacer ceux issus d'autres tribus.
Échange entre le général Ulysses de Mesquita Gomez, commandant de la force de la MONUSCO et le gouverneur de province du Nord Kivu, hier mardi à Beni, chef-lieu provisoire de cette province. Il était question d'étudier les mécanismes pouvant permettre de mener à bien les opérations conjointes entre les FRDC et la force de la MONUSCO pour la protection des civils. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Devant la presse de Beni, le général Ulysses de Mesquita Gomez a réitéré l'engagement de la MONUSCO à adopter de nouvelles stratégies pour une meilleure protection des civils.
Je suis ici pour établir la temporaire force HQ. Nous avons changé les manières que nous avons travaillé avant. Les gouverneurs, aussi le général Mandevo, ont parlé que c'est très important pour travailler conjoint.
D'autres points ont aussi été abordés au cours de ces échanges. Abdourahmane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO Beni, explique.
Nous avons fait la revue de ce que nous faisons ensemble. Le gouvernement a pris l'engagement de faciliter nos actions sur le terrain. Et il y a une autre rencontre qui est prévue bientôt avec d'autres partenaires qui sera faite sous l'autorité du gouverneur pour clarifier les choses. Nous allons aussi parler d'une mise en place d'un centre de commandement et de coordination des opérations conjointes. Le local va être mis à notre disposition. Nous allons nous occuper de la partie logistique.
À noter que cette rencontre intervient quelques jours après la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, en compagnie de la chef de la MONUSCO et justement du commandant de la force. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Notez aussi cette réaction de la diaspora du PPRD au lendemain de l'audition de quelques cadres de ce parti politique par la justice militaire. Le PPRD dit fustiger cette interpellation. Sandra Nkulu Kiungu, coordonnatrice du PPRD diaspora, en appelle au respect des règles qui régissent toute société démocratique. D'après elle, ce qui s'est passé démontre que la RDC vit sous un régime tyrannique. Sandra Nkulu Kiungu, coordonnatrice du PPRD diaspora, est au micro de Kéline Kouté.
Ce qui est arrivé est une preuve éloquente que la RDC aujourd'hui subit la tyrannie. Ceci arrive dans un contexte où nous observons beaucoup de calomnies à l'endroit d'abord de notre président, le président Joseph Kabila Kabange, mais cela maintenant est en train de s'élargir à tous les membres. Nous tirons la sonnette d'alarme. nous interpellons la communauté tant nationale qu'internationale. Nous leur demandons d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que ce qui est arrivé le 10 mars 2025 ne devrait pas arriver dans une démocratie. Et nous devons faire en sorte que ce genre de choses ne se répète plus.
Les dirigeants du PPRD, tout comme les cadres du PPRD, sont avant tout citoyens congolais. En quoi ça dérange si la justice voudrait avoir quelques éclaircissements de leur part par rapport à une situation donnée?
Ah non, madame, nous voulons une république démocratique et qui dit démocratie parle du respect des règles établies. Comment expliquez-vous, madame, qu'un auditorat militaire fasse venir des civils? Nous étions là, nos cadres étaient là, en face de la justice militaire. On nous a plutôt posé des questions sur notre stratégie politique.
Autre nouvelle, un hôpital sans eau potable, cela se passe à Matadi dans le Congo central et il s'agit de l'hôpital de Kinkanda qui est en manque de ce liquide précieux depuis plusieurs mois. Du coup, le chaos s'installe dans l'hygiène et le fonctionnement de cette formation sanitaire. D'après le médecin directeur de ce plus grand hôpital de la province qui note que cette situation dont les causes demeurent inconnues met à mal l'hygiène et le fonctionnement de l'hôpital, y compris de sa morgue. Raison pour laquelle Dr Bijou Soki demande aux responsables de la régie des eaux et aux autorités de la province de s'investir pour résoudre rapidement ce problème. Reportage Nana Plurich Mambo.
À l'hôpital provincial de Kinkanda, l'eau ne coule plus des robinets depuis près de 6 mois. Une situation critique pour les patients, les gardes malades et les personnels soignants obligés d'acheter de l'eau dans les parcelles environnant l'hôpital. L'hôpital, lui, recourt à l'eau du fleuve qu'il transporte dans des tricycles. Conséquence, l'hygiène est compromise notamment dans les toilettes et à la morgue et accroît les risques de propagation des maladies. Docteur Bijou Soki, médecin directeur de l'hôpital provincial de Kinkanda.
Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de s'impliquer. L'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, on ne sait pas assainir l'hôpital. Donc, il y aura beaucoup de cas d'infection, d'infection post-opératoire, même à la morgue, il n'y a pas d'eau. Imaginez une morgue sans eau, c'est grave, hein.
Pour les directeurs provinciaux de la régie des eaux, ce manque d'eau à l'hôpital de Kinkanda est dû à la vétusté et bouchage de sa tuyauterie. Et cela n'est pas la responsabilité de son entreprise, laquelle dessert l'eau 3 à 4 fois la semaine dans les quartiers où se trouve l'hôpital. Toutefois, Théodore Socrate Kabeangando promet de faire une descente dans cet hôpital pour s'enquérir de la situation sur terrain et voir ce qu'il peut faire. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
L'autre actualité, c'est ce coup de pouce de l'Organisation mondiale de la santé et de la Fondation Gavi au gouvernement congolais. Elles ont remis au ministère de la Santé publique près de 70 moteurs hors bord ainsi que différents kits pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles d'accès. Coût total de ce don, 750 000 dollars américains. Cette remise officielle a eu lieu hier mardi à Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage d'Étienne Dissoumbou, rendu par Pascal Chinamoula.
Ce document comprend au total 69 moteurs hors bord, des canons rapides, 14 motos et plusieurs autres accessoires. Sa remise intervient à la suite du Forum national de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite clôturé la semaine dernière à Kinshasa. Ce matériel permettra de renforcer la couverture vaccinale au pays, affirme le docteur Bourei Mahama Sambo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo.
Pendant ce forum, on a passé en revue nos performances en vaccination. Nous avons constaté, et nous le savons, quand nous avons fait les enquêtes de couverture vaccinale, que nous avons des provinces où le taux de couverture vaccinale est très faible. Une des raisons de la faiblesse, c'est l'accès, l'accessibilité des zones. C'est des zones maritimes qui ont des îlots, des îles. Donc même si vous allez en véhicule, c'est difficile d'accès.
Pour sa part, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, déplore le fait qu'il y a encore beaucoup d'enfants non vaccinés dans les pays.
Cette problématique entraîne malheureusement une surmortalité de nos enfants due aux maladies qu'on pouvait éviter. Mais quand on regarde les causes pour lesquelles ces enfants ne sont pas vacciner, une des causes majeures, c'est la logistique. Et cette logistique, pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est liée à plusieurs
différents. Notons que le ministre Roger Kamba a signalé que ces dons de l'OMS et Gavi aidera à réduire la mortalité infantile grâce à la vaccination.
Bilan positif pour l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en 5 ans. Ce jugement est du directeur général d'Anser, manager général de cet établissement public. Il a exprimé sa satisfaction au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi à Kinshasa. Il a indiqué que sur les 44 projets prévus en 5 ans, cet établissement public a finalisé 22 qui sont en cours d'inauguration à travers le pays.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, il règne une confusion autour d'un envoi de forces spéciales par l'Ouganda à Djouba. La question se pose alors que Kampala et le gouvernement sud-soudanais s'affrontent sur deux visions contradictoires. Dans la matinée de mardi 11 mars, le chef des forces armées ougandaises a annoncé l'envoi de forces spéciales à Djouba, officiellement pour sécuriser la capitale sud-soudanaise. Mais coup de théâtre, Djouba dément catégoriquement leur présence, un flou qui soulève des interrogations sur les véritables intention de Kampala.
L'invité.
Notre invité ce jour est le directeur général du Centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, ex-Mamayemo. Al Kitenge nous parle des innovations par rapport à l'ancien hôpital Mamayemo et demande à la population de Kinshasa de fréquenter ce centre hospitalier de l'État où la tarification est à la portée de tout Congolais moyen. Al Kitenge s'entretient ici avec Richard Junot Kamunga.
Al Kitenge, bonjour.
Bonjour.
Ce centre hospitalier tire son origine d'où ?
L'historique du CHU Renaissance vient de la révolte d'une personne qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, donc le président de la République, dont la maman a été une des sages-femmes dans cet hôpital. Elle a fait accoucher des gens. Et donc, de manière ou d'une autre, le président a été attaché à cet hôpital autant que sa mère. Et donc, quand il vient visiter l'ex-Mamayemo, il s'aperçoit de la dégradation de cet hôpital centenaire. Et il décide donc de faire transformer l'ancien Mamayemo en une véritable renaissance de l'hôpital.
Le centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa fonctionne-t-il en plein régime depuis son inauguration en décembre 2024?
Ce qu'il y a de beau, et c'est un challenge de gouvernance, c'est que nous faisons tourner à la fois l'ancien hôpital et le nouvel hôpital. Nous sommes donc dans une phase de transbordement. Et aujourd'hui, près de 50 à 60% de l'activité est passée dans ce bâtiment. Les urgences fonctionnent à temps plein, les consultations fonctionnent à temps plein. Les choses qui ont commencé à entrer ici, c'est ce qu'on appelle les hospitalisations. Nous avons la médecine interne, la chirurgie qui commence à remonter les activités ici. Nous avons la réanimation qui est ici. Et d'ici 2-3 semaines, nous aurons mère et enfant ici. Le premier palier où vous êtes, quand vous y viendrez la prochaine fois, vous entendrez beaucoup de cris de petits bébés. Et donc, nous aurons terminé avec les deux salles d'opération pour la gynécologie, pour que nous soyons en mesure d'admettre ici les accouchements et bien entendu les bébés.
Quelles sont les innovations qui l'ont différencié de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo?
La première innovation, c'est que nous sommes un hôpital entièrement digitalisé, de bout en bout. Deuxièmement, nous sommes en train d'aller vers un hôpital sans cash. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cash ici. Troisièmement, c'est un hôpital qui a pris la décision de faire un quantum leap. Un quantum leap, c'est un saut de tigre. Ça sous-entend qu'en fait, c'est vrai, nous venons d'une précarité avancée. Nous n'avions pas tout le matériel nécessaire. Mais aujourd'hui, ce que nous avons comme équipement ici, d'abord, on voit un bâtiment qui est prêt, qui est utilisé déjà, qui est aux standards internationaux. Mais nous avons tous les équipements dont vous entendez parler en médecine. Nous avons scanner 124, Barrett, nous avons un IRM, nous avons tout le matériel de diagnostic de pointe. Nous avons le plus grand laboratoire de médecine ici en République démocratique du Congo et dans la ville de Kinshasa. Et donc, il ne nous reste plus qu'une chose, une organisation et un management qui nous permettent d'atteindre notre pic de niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de prendre comme travail, c'est notre plus grand défi.
Combien de malades fréquentent ce centre par jour?
Oh, ça commence à venir, on a atteint et dépassé la centaine, mais nous avons en permanence à peu près 250 personnes en hospitalisation dans l'hôpital, entre l'ancien et le nouveau. Et encore une fois, les fréquentations en ambulatoire vont augmenter progressivement. Nous sommes en train de travailler, vous savez, l'ancien hôpital, c'est pas comme un match de football, c'est un processus délicat, les gens qui viennent ici sont en général en état de santé précaires et il faut être en mesure de les remonter. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons un exercice technique de transbordement des enfants qui sont en néonatologie, ça veut dire les prématurés, de l'ancien hôpital vers le nouvel hôpital. Si je vous raconte le process, il, à lui tout seul, mérite un livre de gestion de projet. Et donc, il se passe ici des choses extrêmement sensibles, techniques et de haut niveau. Et je suis privilégié, moi, de me trouver ici, non médecin, mais en train de gérer ce gros changement.
Si ce n'est pas un secret, la tarification est-elle différente de l'ex-hôpital Mamayemo?
Nous avons les tarifications les moins chères de la ville. Et ça va vous surprendre. Malgré tout le luxe et tout le confort qu'il y a ici, par exemple, notre consultation est à 10 dollars. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes largement en dessous des 30-40 dollars que demandent les gens dans les installations privées. Cet hôpital est ouvert à tout le monde. Et je voudrais bien profiter de votre micro pour le dire, cet hôpital appartient à l'État congolais et il compte jouer son rôle dans l'écosystème de la santé Et il est ouvert, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, à tout le monde. Ce n'est pas un hôpital de pauvres, j'insiste. C'est un hôpital pour tous. Nous voulons attirer ici les meilleurs citoyens de la ville et leur donner l'opportunité de ne pas aller à l'étranger et se faire soigner ici. Nous sommes en train de développer un grand programme de médecine préventive pour être en mesure de permettre aux gens de ne pas tomber malade et de se faire soigner anticipativement. Mais également, nous sommes en train de travailler pour avoir ici la possibilité de développer ce que nous appelons la médecine du travail. Ça veut dire aider les gens à avoir un environnement de travail qui ne les fait pas tomber malade.
Ali Kitenge, merci.
C'est à vous, merci.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Pelé Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Dieudonné Nyangasa. Excellente journée à toutes et à tous.